Monseigneur, Madame, Monsieur le Président, mon Père, Mesdames et Messieurs, amis aussi de Philanthropos, en vous écoutant, Monseigneur, je deviens un vieux monsieur. Hein? Toute cette énumération révèle un petit peu mon âge, et je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Mon titre est un titre simple. L'Union européenne, la crise, je devrais dire les crises, et les valeurs. D'abord, une réflexion préliminaire mais essentielle. L'Union européenne est basée sur des valeurs. En fait, elle est la réponse aux antivaleurs, à l'absence de valeurs pendant les années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est en fait une réponse à une période amorale, la réponse à une période barbare. L'Union européenne, ce sont les valeurs qui la forment. Deuxième réflexion, les valeurs sous-jacentes sont celles du personnalisme. C'est si simple que ça. La dignité humaine, qui est une valeur en soi. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est de Archer Kessler, dans son fameux livre « Darkness at Noon ». Il dit « La personne humaine est beaucoup plus que 1 million divisé par 1 million. Ça fait 1. Mais ça ne dit rien sur la valeur unique de chaque personne humaine. » En fait, ce que Kessler a voulu dire, c'est que la personne humaine est l'opposé de ce que le collectivisme nazi ou communiste essayait de nous faire croire. L'homme est un moyen, une fin en soi, n'est pas un moyen. C'est la fameuse définition de Kant. Elle est toujours vraie. L'Europe a mis fin, et c'est une troisième réflexion dans ce petit chapitre, a mis fin à une histoire de bataille. Moi, j'habite une commune au sud de Bruxelles, tout près de Waterloo. Je m'en excuse pour les Français. Tout près de Waterloo. Et donc, sur notre territoire, on a vécu la guerre. On vient de fêter ou de célébrer, ça dépend de votre point de vue, le 200e anniversaire de la bataille de Waterloo. Mais il y a 100 ans, on a commencé la Première Guerre mondiale. Et là, les plus grandes batailles ont eu lieu à nouveau sur le territoire belge, dans la région de Ypres. Donc, on s'y connaît en Belgique. On s'y connaît quand on parle de la guerre. Notre histoire européenne a été une histoire de bataille. J'étais tout récemment, dans la région de Paderborn, au nord de l'Allemagne. C'est un endroit célèbre parce qu'il y a eu une rencontre dans les années, à la fin du 9e siècle, entre Charlemagne et le pape. Il y a eu un grand troc. Moi, je vous protège. Et l'autre disait, et moi, je vous fais empereur. Mais c'est un endroit historique. Et en feuilletant dans l'histoire de Paderborn, je devais faire un discours sur à l'occasion de la fête de l'unité allemande, de la réunification allemande, en feuilletant dans l'histoire de Paderborn, très succinctement, je découvre que c'était une place où la guerre de 30 ans avait fait des dégâts invraisemblables. Des villages entiers avaient été détruits. Personne n'avait survécu. En fait, dans la guerre de 30 ans, 40% de la population allemande a disparu. C'était la guerre entre protestants et catholiques. Je viens de recevoir un autre prix, que vous avez eu la gentillesse de ne pas le rappeler. C'est le prix d'un certain Comenius. Comenius était un protestant, un hussite, un tchèque, qui venait de la Moravie. Et en préparant mon discours, parce que je le prépare déjà, en préparant mon discours, je tombe à nouveau sur la guerre de 30 ans. La Tchéquie a perdu 80% de sa population pendant la guerre des 30 ans, 80%. Tout le reste a été tué, a succombé par des épidémies causées, bien sûr, par la guerre, ou s'est enfui. On parle maintenant de la Syrie. Bien que je vous l'ai raconté entre protestants et catholiques, sunnites et chiites. Quand on parle de la destruction de la Syrie, je vous parle des 80% des Tchèques qui ont été tués. On a vécu tout ça. Mais on a tourné la page de l'histoire en 1950. L'Europe n'est plus la même Europe. L'Europe est, comme l'Allemagne, c'est une nouvelle Europe. C'est une nouvelle Allemagne. Le temps du militarisme, le temps de l'impérialisme est définitivement révolu. On a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire. Et là, c'est unique. Et donc, l'Union européenne, en fait, est l'institution, l'incarnation même de ce mouvement de tourner la page. Et pourquoi ? Comment est-ce qu'on a tourné la page ? Eh bien, en se réconciliant. La réconciliation et le pardon ont été indispensables pour créer cette nouvelle Europe. Et vous savez, la réconciliation et le pardon, ce sont les vertus les plus dures. Aussi au niveau interpersonnel. On n'oublie jamais, mais on peut pardonner. En fait, on ne doit jamais oublier, mais on peut toujours pardonner. Et la réconciliation entre l'Allemagne et la France a été absolument essentielle dans la création de l'Europe. Quand on va en Asie et qu'on entend les leaders et même d'autres, au Japon, en Corée, en Chine, on se rend compte que là, l'histoire est toujours présente. On n'a pas ouvert un nouveau chapitre. On ne s'est en fait jamais vraiment réconcilié. Eh bien, on a réussi à le faire. La guerre n'est plus une blessure ouverte. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a créé. Et ça, c'est l'Union européenne. On a tendance à l'oublier. Mais la réconciliation ne peut se faire s'il y a eu le repentir. Je m'excuse pour ce mot anachronique. Hein? Le repentir. C'est plus que s'excuser. C'est la reconnaissance d'une faillite morale. Bien sûr, il n'y a pas de culpabilité collective, sinon je ne serais pas personnaliste. Mais quand même, il y a une dimension collective dans notre histoire. Et donc, on a fait cet effort gigantesque, gigantesque, et on a réussi. On a réussi d'ailleurs très vite. Moi, je suis né après la guerre, dans le baby boom d'ailleurs, après la guerre. J'en suis pas responsable, mais je suis tout à fait heureux. Hein. Et en fait, moi, j'ai jamais connu l'ombre de l'apparence d'une guerre. Bien sûr, il y a la guerre froide, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc, on a été élevé dans un autre monde, un monde qui n'avait pas cette ou plus cette perspective de guerre. Mes petits-enfants forment la troisième génération de paix. Et chaque génération en politique, ou pour tous ceux qui assument des responsabilités à quel niveau que ce soit, dans le secteur privé, dans le secteur public, dans la société civile, eh bien, a comme devoir de prolonger la période de paix, espérant qu'un jour on pourra parler de la paix éternelle, de Emmanuel Kant. Mais trois générations, c'est déjà pas mal. Et l'Europe, donc, n'est pas uniquement et pas principalement, pas en premier lieu, un projet économique, mais un projet de paix. Et là, c'est toute la différence avec nos amis anglais. Pour eux, l'Union européenne est un projet économique. Ils ont une vision transactionnelle. Et ce n'est pas uniquement un parti qui l'a. C'est une position britannique de longue date. What is the beef for me? Toute la discussion en Grande-Bretagne, c'est surtout, pas uniquement, mais surtout en termes économiques. Quelle est la valeur ajoutée? Les anciens pays fondateurs, et je sais bien, le mot « ancien » est maintenant très, très actuel, mais les anciens pays fondateurs parlaient de la valeur, pas tellement de la valeur ajoutée. Et donc, ce n'est pas uniquement et pas en premier lieu un projet économique. Je dirais même, le génie de Jean Monnet, de Robert Schuman et d'autres, c'était d'instrumentaliser l'économie. L'économie au service du projet de paix. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est de créer des liens tissés par le commerce et par les investissements, par l'économie en général, des liens irréversibles, de créer l'interdépendance, ne pas s'isoler, mais que ces pays deviennent interdépendants, de sorte qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre. Adam Smith disait déjà, ceux qui font le commerce ne font pas la guerre, c'est une vérité toute simple. Et donc, on a voulu créer cette interdépendance parce que celui qui veut faire la guerre, la première chose, la première conséquence serait l'appauvrissement de son pays parce qu'il s'isole, parce que sa prospérité, l'emploi de sa population dépend de l'étranger, dépend des autres. Et donc, on a un destiné commun, common destiny, parce qu'on a créé cette interdépendance. Vivre ensemble par le faire ensemble. Et donc, l'économie n'était pas un but en soi. L'économie servait une cause plus noble, une cause, je dirais, avec une dimension personnaliste et spiritualiste. En plus, c'est l'autre élément de génie, on a voulu créer tout ça graduellement. On connaît la nature humaine. Bien sûr, on aurait pu commencer par dire « on va créer les États-Unis d'Europe ». Voilà, une très belle idée, tout le monde applaudit, applaudissement général. Mais ça ne marcherait jamais. Donc on a commencé avec l'économie et on l'a introduit d'une façon graduelle, de sorte que tout le monde puisse participer, qu'on laisse mûrir les choses. Je ne vais pas vous rappeler toute l'histoire de la création de la communauté européenne et de l'Union européenne. Mais on a commencé par l'acier et le charbon, parce que c'était les industries de base pour l'industrie des guerres. On les a mis sous l'autorité d'une haute autorité, qui s'appelait la communauté de l'acier et du charbon. Précisément pour servir cette cause de la paix. Les pays ne pouvaient plus faire la guerre parce qu'ils n'avaient plus les moyens de faire la guerre. Ils n'avaient plus l'autorité sur le charbon et l'acier. On a créé une union douanière par après. Ensuite, on a créé un marché commun. Et ensuite, on a commencé avec créer même une monnaie commune avec maintenant 19 pays et qui en tout représente 360 millions de gens. Et donc, petit à petit, on a créé l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas encore une union politique, mais c'est une union de politique. Je ne dis pas que ça revient au même, mais à nouveau, c'est du gradualisme, mais du gradualisme qui est performant et qui marche. Bien sûr, le grand marché crée aussi de la prospérité. Et j'en peux en témoigner. Ma région était une région pauvre, la Flandre, très pauvre. Eh bien, tout à coup, elle se trouve, à partir du 1er janvier 1958, dans la région la plus prospère dans le monde. Mais elle s'y trouvait déjà géographiquement. Mais maintenant, elle se trouve dans une zone entre la zone rhénane, Paris, Amsterdam et Rotterdam, mais ayant accès à un marché, pas de 10 millions d'habitants ou de consommateurs, mais à un marché de 170 millions de consommateurs. Les investissements étrangers, surtout américains, venaient, je dirais, à partir du 2 janvier 1958. On a doublé notre niveau de vie en 15 ans. Bien sûr, on travaillait. On travaillait durement, mais on travaillait aussi durement dans les années 50, mais pas avec les mêmes résultats. Donc, on a eu accès à un très grand marché. Maintenant, on a accès à un marché de 500 millions de consommateurs. Et donc, ouvrir les marchés, c'est essentiel pour créer la richesse et la prospérité et l'emploi. Et en plus, des économies fermées créent des sociétés fermées. Des économies ouvertes créent des sociétés ouvertes. Et donc, c'est une transformation très, très grande qu'on a vécue à partir de la création de la Communauté économique européenne, la CEE, à partir de 1958. Et ça a eu un effet sur notre niveau de vie, ça a eu un effet aussi sur le niveau de vie, par exemple, des nouveaux membres. Je vous donne un exemple, il y a beaucoup de statistiques. Mais pendant la crise ukrainienne, il y a eu quelque chose d'étonnant. D'abord, lors de la révolution de Maïdan, vous vous souvenez des drapeaux européens sur la place Maïdan, à un moment donné où nous autres nous sombrions dans l'euronégativisme, l'euroscepticisme, mais eux pas. Ils croyaient dans les valeurs européennes. En fait, ils vivaient toujours sur un régime post-communiste. Et ils avaient vu autre chose, que le niveau de vie de l'Ukraine et de la Pologne était le même en 1990. Mais la Pologne, entre-temps, avait obtenu ou atteint un niveau de vie 3 fois plus élevé que l'Ukraine. Ils travaillaient aussi, les Polonais, mais ils étaient dans un autre cadre. Ils avaient accès à un autre marché. Ils devaient être compétitifs. C'était l'économie de marché et un très grand marché. Et donc l'économie, bien sûr, n'était pas le premier but. Même pour les nouveaux États membres, le premier but, c'est d'ancrer la démocratie pour qu'ils ne viennent jamais à nouveau dans la dictature. Mais il y a bien sûr eu un effet économique important. Et donc, en fait, jusqu'il y a quelques années, l'Union européenne était un success story à plein, a win-win situation, comme on dit dans le jargon actuel. Et donc, il y a cette valeur qui est en valeur en soi de la paix. La deuxième, c'est la démocratie. Et la démocratie est une valeur constitutive de l'Union. La démocratie, il ne faut jamais l'oublier, était une idée nouvelle. Une idée nouvelle en Allemagne, par exemple, et en Italie. L'Allemagne n'a connu qu'une très brève période de démocratie, entre la fin de la Première Guerre et 1933. C'est tout. L'Italie avait déjà connu la dictature en 1922 avec Mussolini. En fait, il n'y avait pas de passé démocratique. Maintenant, on dit que l'Union européenne est la patrie de la démocratie. Et c'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier notre passé. On a découvert la démocratie d'une façon très tardive dans notre histoire. Dans mon pays, autre footnote, dans mon pays, on a donné le droit de vote aux femmes, je ne parle pas de la Suisse, hein, je parle de la Belgique, en 1948. Jusqu'à ce moment-là, les femmes étaient des citoyennes de seconde zone. Maintenant, on fait des leçons aux autres sur l'égalité homme-femme. J'accepte. Et on est tout à fait qualifié pour le faire. Mais il ne faut jamais oublier l'histoire. Jamais oublier l'histoire. Jusqu'en 1948, la femme dans pas mal de nos pays n'avait pas le droit de vote. Oui, sur le plan local, mais si ça devient sérieux, c'était pour les hommes. Et donc, pour nous, la démocratie est devenue constitutive de l'Union. C'est bien sûr le cas aussi pour tous nos membres et certainement pour ceux qui ont un passé fasciste et un passé communiste. Ça fait partie maintenant de notre DNA, comme je viens de dire, ça fait partie de cette Europe nouvelle. Et donc, Quand on parle maintenant de déficit démocratique de l'Union européenne, bien sûr, je prends toutes les critiques au sérieux, mais il y a quand même un petit sourire. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a créé l'Union européenne, c'est précisément la démocratie politique. Et la démocratie est une institution qui doit être protégée, qui doit être étayée. La démocratie n'est pas simplement un processus, pas simplement ce qui est inscrit dans la Constitution. Elle a besoin des résultats pour se justifier. Une démocratie qui n'est pas performante sur le plan socio-économique, qui ne crée pas des emplois, qui ne crée pas la prospérité, qui ne protège pas les gens dans des termes sécuritaires même, à l'interne et à l'externe, est une démocratie qui est sous pression. Donc elle a besoin de résultats pour se légitimer. Mais elle a surtout besoin d'une société civile active, de corps intermédiaires solides, pas uniquement une relation entre l'individu et l'État. S'il n'y a pas une société civile active, comme disait Tocqueville, elle ne peut pas résister un jour ou l'autre à la tentation autoritaire. La démocratie doit être ancrée dans les esprits, the hearts and the minds. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La démocratie, ça doit s'apprendre, ça doit se vivre. Et l'État démocratique a besoin d'une société démocratique, de la volonté de vivre ensemble. J'y reviendrai. Une volonté de compromis. Le président Obama, dans un discours, a dit « This country is built on compromise ». La Belgique aussi, hein? La Belgique aussi. Mais l'Union européenne aussi. Quand on entre au Conseil européen, on sait d'avance qu'on n'aura jamais raison à plein, puisqu'on en a 28. Il y a des pays avec une tradition de gouvernement homogène, mais quand ils entrent dans la salle du Conseil européen, ils savent que c'est autre chose. Les compromis, ça ne compromet pas toujours, non. C'est la base du vivre ensemble. La démocratie, c'est une conversation. En anglais, ils disent « it's a conversation ». Ça sonne mieux en anglais, je trouve, qu'en français. Et il faut la modération, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on vit de plus en plus la polarisation. Et on essaye de nous faire croire que, en fait, c'est normal qu'en démocratie, il y a des différentes opinions et qui doivent s'exprimer, oui. Mais sans qu'il y ait un respect de l'un par rapport à l'autre, on est en train de miner la démocratie. La démocratie, ce n'est pas uniquement un processus, ce n'est pas uniquement formel. À la base de la démocratie, on doit avoir des valeurs. Quand on parle du déficit démocratique, j'ai fait allusion à ça, c'est souvent un concept mal interprété. À nouveau, quand on est dans l'Union européenne, il y a 28 démocraties. Ou dans la zone euro, il y en a 19. Et nos amis grecs ont eu une expérience très curieuse, mais c'est un exemple pour tout le monde. Nos amis grecs ont dit il y a un an, lors des élections, on va changer l'Union européenne. On ne va plus accepter les politiques dures imposées, les politiques d'austérité. Et on va leur expliquer que ça ne marche pas, que le peuple grec est contre. Mais il se fait que 18 autres démocraties ont dit non. Nous voulons prêter de l'argent, mais nous devons un jour, on veut un jour être remboursés. Et donc, vous allez faire tout pour que nous autres, nous soyons remboursés. Parce que nous avons aussi une légitimité. Nos électeurs, nos populations sont prêtes à montrer leur solidarité à une condition, que les autres prennent leurs responsabilités. Et ça a duré 5 mois jusqu'à ce qu'on ait tombé d'accord, sous pression, bien sûr. Mais alors, on a découvert qu'il ne suffit pas de voter dans un autre, dans un pays pour qu'on ait raison. Non, on doit composer. La démocratie, au niveau européen, c'est une souveraineté partagée. Et donc là, si on ne s'en rend pas compte de ça, si on ne peut pas vivre avec ça, on a un très grand problème. Il faut un compromis entre démocratie. Ça, c'est la démocratie, mais la démocratie européenne. Une deuxième série de réflexions, c'est sur le chapitre « La crise et les valeurs ». Eh bien, dans la crise de la zone euro, que j'ai bien connue pendant 2 ans et demi, même plus, on a fait appel à 3 valeurs. Et d'ailleurs, on les retrouve aussi dans la crise de la zone Schengen, dans la crise, ce qu'on appelle chez nous la crise des réfugiés. Il y a d'abord la responsabilité, j'y fais allusion. Dans la crise de la zone euro, ça veut dire il faut mettre sa maison en ordre, restaurer la compétitivité des entreprises et réétablir d'une façon ou d'une autre les équilibres en matière de finances publiques. Donc il faut mettre de l'ordre dans sa maison, il faut prendre ses responsabilités. On ne les a pas prises les 10 premières années de l'histoire de l'euro, mais par la force des choses, sous pression des marchés financiers et d'autres, on doit prendre ses responsabilités. Deuxième chose, il y a la solidarité. Aider ceux qui sont en difficulté, aider ceux qui prennent leurs responsabilités. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, en quelque sorte aussi l'Espagne, en fait, ils étaient faillites. Personne ne voulait leur encore emprunter, prêter de l'argent. Et c'est le contribuable européen qui leur a prêté de l'argent. C'est si simple que ça. Et donc, on a montré notre solidarité. J'y reviendrai. On a montré notre solidarité, mais bien sûr, dans la mesure où d'autres prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas simple. La solidarité était une idée assez neuve, assez nouvelle dans l'Union européenne. Il y avait une certaine solidarité dans le budget européen. Les nouveaux États membres de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est en profitaient, pour employer ce mot, en profitaient parce qu'il y avait des transferts budgétaires. Mais en fait, ce n'était pas très visible pour le citoyen. Mais maintenant, il fallait montrer ça d'une façon très, très claire. Tout au début de la crise, 110 milliards de prêts bilatéraux pour la Grèce. Un an après, encore 100 milliards. En 2015, 80 milliards. Ça devient très visible. Alors, la solidarité, ça demande un effort. Quand quelque chose devient visible, ça devient beaucoup plus difficile. Et il se fait que tout ce processus n'a pas augmenté, disons, l'euro-enthousiasme. Parce que les débiteurs, ceux qui empruntaient, disaient « Oui, mais on doit prendre des mesures inouïes. Et c'est Bruxelles qui nous les impose. » Et les créditeurs disaient « Mais on doit prêter à des gens qui n'ont pas fait leur devoir » comme nous autres, qui ont été des élèves très sages. Et c'est Bruxelles qui nous impose la solidarité. Et voilà 2 frustrés, et les créditeurs et les débiteurs. En même temps, tout le monde avait pris la décision d'une façon unanime. Mais on faisait des reproches, disons, à ce fantôme qu'on appelle Bruxelles. La responsabilité, la solidarité et le partage du pouvoir, partage de la souveraineté. Et alors, on a fait quelque chose c'était le traité de Maastricht, c'était en 91, 92, on a fait quelque chose d'invraisemblable. On a vraiment fait un transfert de souveraineté énorme. en abandonnant la monnaie nationale. Dans le 19e siècle, il y a eu des pays avec 19 monnaies. Je ne sais pas si certains faisaient partie d'une région que vous connaissez bien, Monseigneur. Mais maintenant, on a 19 pays avec une monnaie. C'est exactement l'inverse. Justement pour montrer quelle révolution, dans le monde financier bien sûr, que constituait le transfert de la souveraineté monétaire. Je vais encore plus loin. Au 15e et au 16e siècle, les pouvoirs essentiels du prince, les principes, c'était le droit de battre monnaie et le droit de faire la guerre. L'un était souvent au service de l'autre. Eh bien, le droit de faire la guerre, dans nos pays, on l'a déjà abandonné fin des années 40. C'est la création de l'OTAN. Et maintenant, on abandonnerait si cet autre élément essentiel de la souveraineté, le droit de battre monnaie. On peut se poser la question, qu'est-ce qui en reste par rapport à l'essence du pouvoir? Eh bien, on l'a fait. On l'a fait dans ce grand deal entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Il faut une Allemagne réunifiée, mais dans une Europe plus unifiée. À nouveau, pas en créant de nouveaux trucs, comme dirait De Gaulle, le nouveau machin, comme il disait. Non, en créant quelque chose qui était très, très essentiel, mais en le faisant dans un contexte, un projet politique. On va créer une monnaie commune, de sorte que les liens deviennent vraiment irréversibles. On a pris un risque énorme, parce qu'on n'était pas prêt pour l'union économique et monétaire. On a créé une unité monétaire sans créer vraiment une union économique et monétaire. Le reste suivra. L'intendance suivrait, comme disait l'autre. Et c'est une des raisons de nos problèmes. Mais donc, on a fait un transfert de souveraineté énorme. Seulement, quand on a une monnaie commune, il faut aussi des politiques communes. C'est si simple que ça, c'est le common sense. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, de là viennent tous les problèmes. Et ça, on a dû tirer cette leçon dure pendant la crise de la zone euro. On a dû créer davantage de politiques communes parce qu'on avait une monnaie commune. C'est l'Europe de la nécessité. Ce n'est pas forcément l'Europe de l'enthousiasme, mais de tirer toutes les conséquences d'un choix initial. Et donc, responsabilité, solidarité, partage de la souveraineté sont des valeurs qui sont à la base de pratiquement toute politique, mais on a eu cette expérience toute particulière pendant la crise de la zone euro. Et ces trois valeurs ont été pratiquées, comme je viens de dire, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et alors, je fais appel aux philosophes et théologiens entre vous, quand on fait quelque chose sous la contrainte, la valeur morale is in the neighborhood of zero. Quand on est obligé à la vertu, ce n'est plus une vertu. Ce n'est plus une vertu, mais on l'a fait quand même. Mais parce qu'il y avait cette contrainte, et pour les pays débiteurs et pour les pays créditeurs, bien sûr, les décisions ne se prenaient pas facilement, pas aisément. C'est pour ça qu'on a souvent agi ce qu'on appelle « a little bit too late » and « too little and too late » en même temps. Mais dans la crise des réfugiés, on fait appel aussi à cette triade. Et on vient de faire l'expérience encore hier. Responsabilité, les pays doivent respecter la législation européenne sur l'asile, prendre leurs responsabilités. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un sujet juridiquement compliqué, mais il y a cet aspect qu'il faut chacun prendre ses responsabilités. Pas dans le sens qu'on ne doit protéger que ses propres frontières. Parce que ça, c'est ce qu'on appelait dans les années 30 « a beggar my neighbor policy ». Moi, j'exporte mes problèmes vers d'autres pays. Je protège ma frontière, tant pis pour les frontières des autres. Ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est de respecter toute la législation existante. La solidarité, elle doit se faire sous forme d'aide financière et une redistribution des réfugiés sur le territoire de l'Union européenne. On va aider la Grèce. La Grèce est un petit pays. La Grèce a perdu 25% de leur produit intérieur brut. 25% en 6 ans. Dans mon pays, on fait la grève pour 0,2 ou 0,3% d'augmentation de salaire. Je le dis aussi dans mon pays, donc aucun souci. Eux ont perdu 25% de leur PIB. Bien sûr, ils devaient corriger les erreurs du passé. Mais maintenant, ils ont reçu 850 000 réfugiés qui viennent des côtes de la Turquie. Donc il faut les aider. Il faut les aider. Et on les aide. Ils doivent s'aider eux-mêmes, mais on doit aussi montrer notre solidarité. On a essayé aussi dans l'Union européenne de mettre sur pied un système où des réfugiés de guerre, je parle surtout de ça, eh bien, on va les, et je n'aime pas le terme, redistribuer sur les 28 pays membres de l'Union européenne. Ça, jusqu'à présent, ça a échoué. Je crois que ça n'a pas trop d'avenir d'ailleurs. Mais c'était une volonté de solidarité. Mais j'y reviendrai. Et il y a la souveraineté partagée. Un jour, le contrôle, la surveillance des frontières externes de la zone Schengen, eh bien, doit être confié pas uniquement aux autorités nationales et certainement pas dans des pays qui ont des frontières poreuses ou des frontières très difficiles à protéger. Il faut une organisation européenne pour cela. On y a pensé, on n'y est pas encore. Et donc, cette triade solidarité, responsabilité et souveraineté partagée sont aussi au cœur, disons, de la gestion de la crise de la zone euro. Mais là aussi, il y a beaucoup de contraintes. Et c'est ressenti comme une contrainte. C'est même ressenti davantage par les États membres comme une contrainte comparé à la crise de la zone euro. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une dimension humaine tout à fait différente par rapport à la crise de la zone euro dans cette crise des réfugiés. Il s'agit d'hommes et de femmes désespérés qui fuient la guerre et la terreur. Il ne faut jamais l'oublier. La chancelière allemande est une des seules qui a parlé des réfugiés de guerre comme des êtres humains. La plupart d'autres parlaient du refoulement, des pushbacks, des barrières, des murs. Non, il y a une dimension humaine dans tout cela. Et on a tendance à l'oublier. Et les Européens ont montré leur générosité tout au début de la crise. Mais ils ont vite pris peur. Une peur de perdre leur identité, de perdre leur way of life, leur souveraineté face à l'islam. Et aussi la perspective de devoir recevoir encore un nombre plus important qu'en 2015 de réfugiés dans l'avenir. Et tout ça a fait peur. Les sociétés se sont crispées et même se radicalisées, aussi sur le plan politique. Il faut tenir compte de cette réalité, même si souvent elle est hors proportion. Dans mon pays, quand on pose la question « Combien de musulmans dans la Belgique ?» En moyenne, selon les sondages d'opinion, on dit 29%. La réalité est 6%. Et c'est bien avant la crise des réfugiés. Mais cette peur de perdre une partie de son identité est une réalité de la vie en société. La volonté politique de chercher des solutions européennes, comme je viens de dire, est maintenant beaucoup moins présente que dans les années 2010-2013. Elle était déjà sous pression à ce moment-là. Mais la raison est que les leaders nationaux sont sous pression de leur électorat qui demande à être protégé, même au détriment de l'autre. Et donc ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Vous savez, moi je viens d'un pays où on connaît tous les problèmes d'identité. On est même spécialiste dans ces problèmes. Et ils sont souvent plus durs à gérer que les problèmes socio-économiques. C'est la réalité. Et donc, c'est tout à fait paradoxal que le chômage, le pouvoir d'achat et tout ça, à certains moments, on l'oublie quand on se sent menacé dans son identité. Et donc, on doit en tenir compte. Et les leaders doivent chercher un équilibre. Je ne parlerai pas d'un compromis, d'un équilibre entre l'idéalisme éthique, et je ne dis ça pas d'une façon péjorative, pas du tout, et ce qu'on appelle le réalisme politique. L'idéalisme éthique, bien sûr, c'est le bon samaritain. Et c'est la parabole ou le récit des plus exigeants de l'Évangile. Parce que le bon samaritain ne soignait pas son voisin. Le mot « il faut aimer son voisin », à mon avis, ça ne veut rien dire. On aime, bien sûr, ceux qui sont proches de vous. Il ne manquerait que ça, que vous n'aimez pas vos enfants, vos petits-enfants, etc. Celui, ton prochain, c'est celui qui vit à côté de vous. Si on ne l'aime pas, on a un grand problème. Le plus dur, c'est d'aimer celui qui n'est pas ton prochain. Et c'est toute la parabole du bon samaritain. Il soignait son ennemi. Son ennemi dans le sens collectif, pas nécessairement son ennemi sur le plan personnel, parce qu'ils ne le connaissent pas. Quand ils découvrent le visage, bien sûr, du soi-disant ennemi, là tout le monde change. C'est Emmanuel Lévinas qui nous l'a encore appris, que le visage humain peut changer tout. Le visage humain crée un appel éthique formidable. Et donc, chaque démarche politique doit partir d'un idéalisme éthique. Mais aussi, il y a cet autre aspect des choses. C'est ce qu'on appelle le réalisme politique. Et dans le cas de la crise des réfugiés, c'est la capacité d'absorption matérielle et non matérielle de nos populations. Il est très facile de choisir le camp du réalisme, unilatéralement, voire tomber dans le nationalisme et même l'ethnocentrisme. C'est la solution de facilité. Toute la difficulté réside d'avoir cet équilibre entre humanisme et réalisme. Et d'autre part, il faut lire aussi, s'il y a un équilibre à trouver, comme je viens de le décrire, il n'y a pas de compromis possible sur les valeurs publiques qui forment le noyau dur de nos civilisations. L'état de droit, la démocratie politique, l'égalité homme-femme, la non-discrimination, la séparation de la religion organisée et l'État, la liberté d'expression de religion, les droits de l'homme. Autour de cette civilisation unique peuvent graviter plusieurs cultures, conviction et religion. Mais nos États et l'Union sont basés sur ce socle qui est la base de la cohésion sociale. Une civilisation et plusieurs cultures. C'est ça le vivre ensemble. Et le vivre ensemble ne se fera qu'autour de ces deux principes fort simples. Le vivre ensemble n'est pas facile. Ni sur le plan personnel. Bien sûr, moi je n'ai aucun problème à la maison, hein? Jamais eu d'ailleurs. Mais le vivre ensemble n'est pas facile, ni sur le plan personnel, ni au niveau des sociétés et des peuples. Ça exige un effort, vivre ensemble. accepter les différences, accepter l'altérité. L'autre est toujours différent. Aussi sur le plan personnel, comme je viens de le dire. Une rencontre exige du respect, bien sûr du respect réciproque, exige le dialogue. Dans le dialogue, on reconnaît les différences et on reconnaît ce qu'on a en commun. Le dialogue, ça commence toujours avec l'écoute. Si on n'écoute pas, il n'y a pas de dialogue. Et si on écoute, on entend toujours quelque chose qui vient de l'autre et normalement un message qui n'est pas toujours votre message. Et une rencontre exige la modération. Ça, c'est tous les ingrédients d'un vivre ensemble. Et donc, le vivre ensemble au niveau européen et dans nos sociétés multiculturelles, eh bien, ça demande un effort. Même si on accepte le socle commun, vivre avec d'autres cultures, d'autres religions, d'autres langues, ça exige un effort. Diaboliser et polariser est une solution de facilité, une expression extrême d'individualisme. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Donc, il faut se ressaisir pour éviter qu'on se retrouve sur une pente descendante. On a besoin de plus qu'un simple dialogue interreligieux et interconvictionnel dans le sens d'une rencontre uniquement entre clergés. C'est bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Le dialogue doit se faire à un niveau beaucoup plus vaste. Aussi le dialogue interreligieux et interconfictionnel. Parce que, disons, les représentants des religions ne sont souvent plus des représentants de nos sociétés. Le monde a changé. Il ne suffit pas que des évêques, des cardinaux, des mouftis et d'autres se mettent ensemble. C'est important, ça peut être le début, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Mesdames et messieurs, le danger est que le terrorisme empoisonne le climat sociétal. Qu'on fait un amalgame entre tous ceux qui appartiennent à une autre religion et ceux qui sont des terroristes. Et donc, c'est un élément nouveau aussi qui s'ajoute à cette crise multiple à laquelle l'Europe, l'Union européenne et les États membres doivent faire face. La réaction des Français après les attentats a été digne. Et même avec, certainement après la deuxième vague d'attentats, Bataclan et autres parts, ça a été fait avec un certain recueillement. La revanche, l'idée de revanche, est absente, ou était absente. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit de la revanche? La revanche est à l'origine de la guerre et du conflit. Et la communauté musulmane a participé à ce mouvement. À l'avenir, on doit absolument éviter, parce qu'il se peut que le terrorisme, il y a des attentats terroristes peuvent se dérouler encore, ou peuvent avoir lieu, disons, dans un avenir proche ou lointain. À l'avenir, on doit absolument éviter de tomber dans ce cercle infernal de revanche, de violence et de contre-violence. Parce qu'à ce moment-là, ce sera le choc des civilisations, the clash of civilizations, ce qu'on a évité jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, bien sûr, il y a les problèmes que j'ai évoqués, mais on a toujours tendance, quand on est en pleine crise, crise de la zone euro, crise des réfugiés, à oublier que la vie continue, qu'il y a encore d'autres problèmes que les problèmes avec lesquels on doit faire face. Dans cette période de crise multiple, on ne peut oublier les grands défis de nos sociétés. Et deux de ces grands défis, c'est bien sûr le changement climatique. Et là aussi, on découvre qu'un pays seul ne peut pas régler l'affaire. C'est si simple que ça, c'est le bon sens. Et moi, je suis toujours fier que, lors de mon tout dernier Conseil européen, on s'est mis d'accord à 28 sur un objectif et les instruments pour l'exécuter, pour que en 2030, on ait moins de 40% d'émissions CO2 par rapport à 1990. Et on vient d'atteindre nos objectifs pour 2020, parce qu'on est certain maintenant qu'on les atteindra, mais on fera mieux. On dit souvent que le politique ne tient jamais ses promesses. On a fait mieux que nos promesses. C'est rare, mais ça vaut la peine de le mentionner. Et donc, l'Union européenne est maintenant à la pointe des énergies renouvelables dans le monde. À la grande conférence de Paris, on était les leaders d'un grand peloton de 80 pays qui avaient des grandes ambitions. Et on est à la base, avec la présidence française, mais l'Union européenne en tant que telle est à la base de cet accord historique. Bien sûr, il nous faut l'implémenter, il faut l'exécuter. Et dans nos problèmes actuels, on parle souvent de la survie de l'Union européenne, mais quand il s'agit du climat, il s'agit de la survie du genre humain. Ça, c'est encore autre chose. Il s'agit bien sûr d'une valeur, je parle des valeurs et la crise, mais d'une valeur essentielle, c'est-à-dire la vie, la survie. Et donc on ne doit jamais oublier, même quand on doit s'occuper d'autres crises, qu'il y a des enjeux fondamentaux et essentiels pour l'avenir. Et même dans une période comme on vit aujourd'hui, on doit voir ce qui se passe dans nos sociétés. Et bien sûr, il y a nos problèmes économiques et le chômage qui est toujours en moyenne dans l'Union européenne de 10%. Mais il y a aussi des inégalités qui sont grandissantes pendant tous les pays. Dans certains pays. Pas dans tous les pays. Dans mon pays, dans la France, en France, aux Pays-Bas, le taux d'inégalité n'a pas augmenté les dernières années. Mais il y a des tendances qui nous disent que il y a des tendances qui laissent prévoir qu'on pourrait vivre, disons, ce que les États-Unis vivent maintenant. La campagne électorale américaine, indépendamment des candidats, ça c'est autre chose, mais indépendamment de ça, est profondément marquée par une crise, une grande malaise dans la société. Il y a une croissance économique. Il y a même un taux de chômage assez bas, 5%. Seulement, il y a ce sentiment qu'un tout grand groupe de la population, ce qu'on appelle les classes moyennes, ne participe pas à ce mouvement, ou trop peu. Il y a beaucoup de chiffres, je n'ai pas besoin de Piketty pour en être conscient. Et ça se trouve au cœur du débat américain. Il y a le danger, et dans certains pays, c'est déjà le cas chez nous, d'un déficit de justice. C'est aussi un de nos problèmes de nos sociétés. Et donc, on ne peut jamais oublier, même si on doit s'occuper de la crise de la zone euro ou de la crise des réfugiés, qu'il y a un autre agenda politique, un autre agenda sociétal qui est aussi important. Mesdames et messieurs, le personnalisme est un humanisme. Il y a le fameux mot de Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Non, le personnalisme est un humanisme. Le « nous » et « eux » est contraire à cette approche. Dans un élan d'idéalisme éthique, je dirais avec Buber, « ich und du », moi et toi, au lieu de nous et eux. C'est un conflit de valeurs. Et comme je viens de le dire, cette polarisation est aussi visible non seulement dans nos États, mais aussi aux États-Unis. Alors, le langage des responsables civils politique et autres, est important. La manière dont on parle des choses, il y a le langage et il y a le résultat. Et on parle souvent d'une façon méprisante, ce ne sont que des paroles. Non, la façon dont des responsables à tout niveau s'expriment, eh bien, ça forme aussi la société ou l'esprit dans une société. La façon dont on parle de l'autre, de l'adversaire politique ou de l'adversaire idéologique, la façon dont on se comporte, la rhétorique, le langage, tout ça est extrêmement important pour qu'il y ait une atmosphère dans une société où le dialogue, la modération puisse régner. Mais on a aussi besoin de résultats. On a besoin de résultats en termes de chômage, des inégalités, de la fraude fiscale internationale, terrorisme, l'immigration non contrôlée, le dumping social. On a besoin de résultats pour convaincre les gens. Parce qu'il y a le langage, mais on devient cynique, on ne vous croit pas. Je crois que le langage est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Hein. Mais quand même, il faut comme on montre les résultats. On est tous des saint Thomas. Hein. Il faut, d'une manière ou d'une autre, il faut le sentir, il faut le voir, que vos actes sont en concordance avec les résultats. Et là, l'Union européenne est un problème. Les démocraties nationales aussi. Mais je me sens plus responsable depuis 5 ans, maintenant un petit peu moins, mais plus responsable pour l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, et les Anglais ont un mot très juste pour le décrire, est deux choses en même temps. C'est un espace, a space, et c'est un lieu, a place. Je m'explique. L'Union européenne est un espace. On a créé un grand marché pour les biens, les services, les capitaux, les travailleurs, les citoyens, les étudiants, les touristes, etc. On a créé des opportunités invraisemblables. Tous ceux qui ont participé dans les programmes Erasmus et autres, des millions de jeunes gens en ont profité. Ce sont les Européens, d'ailleurs, de demain. Et c'est toujours notre grand espoir. Mais, disons, on a créé ces opportunités invraisemblables en créant cet espace de 500 millions de citoyens et de consommateurs et d'autres. Ça a ouvert les esprits, ça a empêché la guerre. Mais en même temps, on doit créer aussi un chez-soi, a place, là où on ne doit pas se justifier, où on est at home and at ease, où on se sent protégé. Et là, c'est le grand problème. Il y a deux sortes de gens. Il y a beaucoup, mais il y en a deux sortes de gens. The movers, ceux qui profitent de ces grands espaces, et the stayers at home, ceux qui ne le voient jamais et qui ont ce grand besoin d'être protégés contre la crise, contre le chômage, contre l'immigration non contrôlée, contre le dumping social, contre le terrorisme et autres. J'ai énuméré toute la liste quand je parlais des résultats. Et tout pouvoir politique doit protéger. Pas trop, sans tomber dans le protectionnisme, mais doit aussi protéger. On a besoin, dans une entité politique, dans un pays ou comme dans une union, on a besoin de ce space et on a besoin de ce place. Le space, on s'en est occupé. C'est un grand succès. On peut toujours l'améliorer, mais c'est un grand succès. Le place, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de déficits. Mesdames et messieurs, donc, il faut une grande lucidité et en même temps une grande volonté de construire et de reconstruire. La force pour le faire doit venir de cette foi dans l'homme et cette foi dans l'humanisme. C'est mon message d'aujourd'hui ici à Philanthropos. Merci beaucoup.